Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 18, le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est avec crainte et tremblement que nous voulons méditer ta parole parce que ta parole est sainte, Seigneur. Mais nous voulons nous avancer auprès de toi avec assurance parce que tu ne nous vois pas nous-mêmes, mais tu vois Christ en nous. Et c'est par Jésus-Christ que, Seigneur, que nous voulons comprendre aussi cette parole qui est la lumière, ta parole qui est la lumière, Seigneur. Éclaire-nous au travers de ta parole et conduis-nous pendant ces instants. Au nom de Christ, notre Sauveur. Amen. J'ai intitulé cette petite méditation comme ceci, un appel à l'humilité, ou l'appel à l'humilité. Vous savez, frères et sœurs, les petits-enfants peuvent nous apprendre de merveilleuses choses sur la vie spirituelle. Observons les petits-enfants. Observons-les et leur vie d'enfant, de leur vie d'enfant, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements qui vont nous aider dans notre marche spirituelle, dans notre vie chrétienne. Et le monde dans lequel nous vivons, le système de valeurs de ce monde est totalement opposé à celui du royaume des cieux. Parce que dans ce monde, pour être grand, il y a des critères. Des critères que le monde nous impose, entre guillemets. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui voit le pouvoir, l'intelligence, la beauté, le savoir-faire, la popularité comme des indicateurs de la grandeur d'une personne. Et on le voit souvent, surtout lors des obsèques. Ah, il fut un tel, c'est un grand homme. Il fut premier ministre deux fois, ministre quatre fois, député. Il fut un grand homme. Pourquoi le monde a ses critères? Mais ces critères sont opposés à celui du royaume des cieux. Dieu voit des choses différemment que le monde. Mais selon Jésus-Christ, dans les passages que nous venons de lire, pour être grand, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Selon lui, au verset 4, il vient de dire, « Quiconque se rendra humble comme un petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Quiconque se rendra humble, c'est vraiment le contraire des critères d'appréciation de la grandeur dans ce monde. Dans ce monde, quand tu es faible, dans ce monde, quand tu es rien, si tu es rien, personne ne dira de toi que tu es un grand homme. Personne. Personne. Et dans le passage que nous avons lu, Jésus va enseigner à ses disciples des merveilleuses vérités sur le royaume des cieux en utilisant l'exemple d'un petit enfant. Il va tirer tout son enseignement sur la vie d'un petit enfant. Et si nous tournons nos Bibles dans Matthieu, dans Marc chapitre 9, le verset 33, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Marc 9, verset 33, la Bible dit ceci, toujours c'est le même récit, mais raconté différemment par Marc. Il est écrit au verset 33, « Les disciples arrivèrent à Capernaüm. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que il y eut une discussion entre les disciples pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Lequel d'entre eux était le plus grand. Et cette discussion intervient juste après que Jésus-Christ leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Nous pouvons voir ça dans, si je ne me trompe pas, dans Marc, chapitre 9. Marc chapitre 9, à partir du verset 31, il est dit, « Car Jésus enseignait ses disciples et il leur dit, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et trois jours après qu'il aurait été mis à mort, il le ressuscitera. » Et la Bible dit que les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Cette discussion donc intervient juste après que Jésus dit que bon, moi je vais partir, je vais mourir. Je vais partir. Et les disciples ne comprenaient pas grand-chose. Ils ne comprenaient pas la vérité que Jésus est venu dans ce monde, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et après avoir dit cela, Jésus a entendu que ses disciples discutaient sur quelque chose et Jésus-Christ voulait savoir de quoi ils discutaient pendant leur voyage. Il voulait savoir qu'est-ce que vous vous disiez pendant le voyage, pourquoi vous discutiez pendant le voyage. Et la Bible nous dit, cela ne se trouve pas dans l'évangile de Matthieu, mais toujours dans l'évangile de Marc, à partir du verset 33, si je peux lire la parole de Dieu, Marc, chapitre 9, le verset 33. Ils arrivèrent à Capernaüm lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? De quoi discutiez-vous en chemin? Le verset 34 nous dit, les disciples gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Face à cette question que Jésus-Christ leur a posée, de quoi discutiez-vous? Les disciples, ils ont gardé le silence. Ils ont gardé le silence. Alors, mais on s'est dit, mais pourquoi ils ont gardé le silence? Pourquoi ils ont gardé le silence? Souvent, moi, quand les enfants étaient encore jeunes, si on était dans la voiture et ils étaient derrière, de quoi ils discutaient entre eux? Entre eux, ils parlaient, ils chuchotaient de quelque chose. Et dès qu'on arrive à la maison, on dit, mais oui, mais je vous ai entendu me parler de quelque chose mais dans la voiture. Donc, bon, c'était quoi en fait? Oh non, rien, papa, non, rien, 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 rien. Et cette réponse est une... C'est une sorte de réponse coupable. Coupable dans le sens qu'ils discutaient de quelque chose qu'ils ne veulent pas dire à papa. Parce qu'ils savent que ce n'était pas bien ce qu'ils disaient. Et que papa ne va pas approuver. Et les disciples ont fait presque pareil. Le Seigneur leur pose la question, de quoi discutiez-vous? Ils ont dû garder le silence. Sa question est accueillie par le silence. Pourquoi? Parce qu'ils étaient gênés par leur discussion devant Christ. Ils étaient gênés parce qu'ils se sont discutés entre eux pour savoir qui était le plus grand d'entre eux. Et tout cela pourquoi? Ils voyaient déjà l'après Jésus-Christ. Parce que Jésus leur avait dit que bientôt, le Fils de l'homme sera mis à mort. Et eux, dans leur intelligence perso, peut-être ils pensaient à la succession. Oui, ils étaient gênés par leur discussion parce qu'ils se sont discutés entre eux pour savoir qui était le plus grand. Il y a eu alors une sorte d'incertitude. Ils ont voulu savoir qui devrait être le numéro un si Jésus-Christ venait de partir. Qui devrait être le numéro un? Qui devrait être là-haut dans l'ordre hiérarchique parmi les apôtres? Vous savez, l'homme n'a pas changé. L'homme n'a pas changé depuis le commencement jusqu'à maintenant. Certainement, dans l'heure de discussion de savoir qui sera le plus grand, qui sera le premier, qui sera le numéro un, qui sera le leadership, entre guillemets, ça me rappelle aussi à mon travail, on avait un directeur qui était malade, et à un moment donné, bon, tout le monde savait qu'il ne s'en sortira pas. Il ne s'en sortira pas. Qu'il allait partir. Et parmi les sous-directeurs, je ne dis pas qu'il y avait une guerre, mais celui qui était au-dessus du directeur, l'administrateur, commençait déjà à préparer les sous-directeurs à la succession que si le chef n'est plus là, l'entreprise doit tourner. Alors, parmi les sous-directeurs, il commençait déjà à choisir un ou deux pour savoir qu'est-ce qu'il fait, pour s'habituer au travail du directeur, tout ça. Donc, il prévoyait déjà l'après-directeur, là. Et c'est en quelque sorte, hein, donc, la pensée des disciples. Mais parce qu'ils avaient toujours une pensée terrestre, et non une pensée spirituelle. Et non une pensée spirituelle. Donc, certainement, chacun d'eux avait des raisons pour laquelle chacun pouvait dire que non, mais moi, je serai le plus grand parmi vous tous. Il y avait des raisons, chacun avait ses raisons. Chacun avait ses raisons. Mais ils sont arrivés à une impasse et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur qui est le plus grand. Certainement, c'était comme ça. Ils se sont dit à moi, parce que moi, compte tenu de ceci, de cela, c'est moi. L'autre dit aussi, moi aussi, compte tenu de ceci ou de cela, c'est moi. Ils ne se sont pas mis d'accord. Parce que Pierre, l'apôtre Pierre, pouvait dire, c'est normal que je sois le plus grand, après tout. C'est moi qui ai déclaré devant tout le monde que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est moi qui ai déclaré ça. Et j'avais approuvé. Parce que Jésus a dit non, vraiment, cela vient d'en haut, ça ne vient pas de toi-même. C'est le Père qui t'a donné ça. Alors donc, certainement, ça sera moi. Donc ça sera moi. J'essaye un peu de me mettre dans leur peau. La Bible ne le dit pas, mais j'essaye un peu de me mettre dans leur peau. Et l'apôtre André aussi peut dire, mais oui, c'est moi qui serai le plus grand. C'est moi. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai présenté Jésus-Christ. Hein. Si ce n'était pas moi, vous allez toujours continuer à pêcher vos poissons là-bas à la mer, non? Mais c'est moi qui vous a présenté Jésus-Christ. Donc c'est moi qui sera le plus grand. On peut continuer la liste, mais Juda aussi pouvait dire aussi un petit mot. Juda pourra dire aussi, ah oui, mais c'est moi. Parce que Jésus m'a confié la caisse. Jésus me fait confiance pour m'occuper de l'argent. C'est moi. Et ainsi de suite. On peut citer tous les apôtres, tous les disciples, chacun avait ses raisons personnelles pour dire que c'est lui qui peut être le premier, le plus grand. Chacun se croit plus qualifié que les autres. Et si vous remarquez bien dans le monde d'aujourd'hui, cela n'a pas changé. Chacun se croit toujours plus qualifié que, surtout au travail. Ça nous étonne deux fois au travail. Bon, on se connaît tous. Nous connaissons des qualités et des faiblesses. Mais s'il faut qu'il y ait une promotion et que le chef vous appelle tous, bon, venez, allez, proposez-moi. Qui dois-je nommer comme votre supérieur maintenant? Je pense que chacun mettrait son nom. Hein. Personne ne citera l'autre. Même si tu sais que l'autre a beaucoup plus de qualités que toi. C'est ça la nature humaine. C'est ça la nature humaine. Donc, chacun pouvait citer ses qualités. Chacun se croyait plus qualifié que les autres. Chacun se croit plus digne d'honneur que les autres. Chacun pensait qu'il est plus grand que les autres. Mais Jésus-Christ n'a pas répondu tout de suite à leurs questions. Comme ils n'arrivaient pas à s'entendre, à trouver un compromis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus voir Jésus-Christ. Ils sont venus vers le Maître. Et Matthieu chapitre 18 au verset 1 nous dit, « En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux ?» C'est comme s'ils voulaient que Jésus-Christ puisse trancher. « Qui est donc le plus grand ?» Jésus n'a pas répondu directement à leurs questions. Il leur apporte seulement une leçon de choses spirituelles par le canal d'un enfant. Il n'a pas tout de suite répondu que c'est un tel ou c'est pas un tel. Jésus-Christ n'a pas dit. Mais il a fait ressortir un enseignement spirituel au travers la vie d'un enfant. Et les versets 2 et 3 de Matthieu 18 nous disent ceci. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Oui, les disciples pensaient que la grandeur se voyait dans celui qui est beaucoup plus compétent, beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus courageux. Mais Jésus dit, le plus grand est celui qui s'humilie et devient comme un petit enfant. Les critères d'évaluation de la grandeur ne sont pas les mêmes dans le monde et dans le royaume des cieux. Jésus nous dit que lorsque nous servons les moindres d'entre nous, nous les servons en réalité. Si vous lisez un peu plus loin, au verset 5, il est dit, « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. » Un petit enfant représente le moindre des moindres. Surtout à l'époque, à cette époque-là, un petit enfant, c'est un petit enfant. Hein? Des fois, s'il ne veut pas, tais-toi. Un petit enfant représente le moindre des moindres, mais a une place particulière dans le cœur de Jésus-Christ. Petits enfants, ils avaient une place particulière dans la vie et dans le cœur de Jésus-Christ. Et comme on l'a lu au verset 5, « Quiconque reçoit à mon nom un petit enfant, comme celui-ci reçoit moi-même. » En prenant l'exemple d'un enfant,
le Seigneur voulait dire à ses disciples, « Voici les qualités d'un enfant que je cherche en vous. » Les qualités qui se trouvent dans la vie de ces petits enfants, c'est ce que moi je voudrais voir dans votre vie. Dans votre vie. Et nous pouvons voir, nous pouvons en citer ce soir, que trois, il y en a beaucoup, mais on va citer rapidement trois de ces qualités. La première qualité, c'est l'humilité. Un petit enfant est humble. Et on le voit à la maison. Un petit enfant est humble. Humble. Les enfants savent toujours que, ah, mon père, c'est le plus fort de tout le monde. Même si le père, donc, c'était, bon, un petit coup, il tombe par terre, mais pour l'enfant, son papa, c'est le plus fort. Sa mère, mais c'est elle qui fait la bonne nourriture. Voilà. C'est sage, un petit enfant. Il est humble. Ah non, moi, il ne sait pas faire. C'est papa qui sait faire. C'est maman qui sait faire. L'humilité. Jésus voulait enseigner ses disciples d'avoir un esprit qui cherche à s'abaisser plutôt qu'à se lever. Les disciples avaient toujours tendance de se lever. Qui est le plus grand? Mais Jésus veut leur enseigner que faut toujours avoir cette attitude de s'abaisser plutôt que de se lever. La parole de Dieu dit que celui qui veut être plus grand soit le serviteur des autres. Celui qui veut être le plus grand soit le serviteur des autres. C'est le contraire de ce qui se passe dans le monde. Voilà les critères d'appréciation de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même a montré l'exemple en lavant le pied de ses disciples. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Même avant même de laver le pied de ses disciples, lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, a dû accepter de laisser le trône, la gloire, et accepter de s'abaisser, de s'humilier. Et la Bible dit de s'humilier jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Lui qui méritait toute gloire, lui qui avait toute gloire. Et il a montré l'exemple. En s'humiliant, en lavant les pieds de ses apôtres. Frères et sœurs, quand nous nous humilions, le Seigneur nous élèvera en temps voulu. Et s'humilier, c'est pas seulement qu'on le dise de la bouche, mais c'est une attitude qui vient du cœur, qui vient vraiment du fin fond de notre cœur. C'est pas le fait, donc souvent j'avais entendu ça chez moi à la maison, il y avait des cousins qui disaient, ah oui, moi je suis comme ça, moi je m'humilie, moi je m'abaisse toujours, hein. Mais c'est eux qui provoque moi. Mais je dis, mais tu t'abaisses, mais ta façon de parler, c'est pas ça s'abaisser. Hein. Tu vois? Laissez les autres dire que oui, tu es humble. Et non toi-même, prétendre que tu es humble. Non, Jésus ne dit pas que prétendez que vous êtes humble. Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ dit convertissez-vous, c'est-à-dire changez de manière, changez votre façon de voir les choses, changez votre attitude. Devenez comme des enfants, des petits enfants. Matthieu 23, le verset 12 dit, « Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Voilà ce que la Bible dit. Il est important pour nous d'avoir une attitude d'humilité. Non pas seulement devant le Seigneur, non pas seulement devant le service du Seigneur, mais devant nos frères et sœurs. Qu'on reconnaisse que celui-là a plus de valeur, plus de qualité que moi. Que celui-là mérite plus que moi. C'est ça, l'humilité. Voir l'autre ou les autres meilleurs que moi. Et le reste, c'est le Seigneur qui sait, le Seigneur qui connaît. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, dit la parole de Dieu. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Fait grâce aux humbles. Plus loin, dans Matthieu, dans Marc 9, 35, la Bible dit que si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Tu veux être le plus grand, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais la Bible dit, tu seras le dernier de tous et le serviteur de tous. Des fois, nous voyons beaucoup de choses qui se font dans le monde. Moi, je me rappelle, quand je vais au pays, par exemple, bon, je fais le ménage à la maison. Mais des fois, j'ai des petits cousins, des petits... Oh non, 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 tonton, laisse. On me dit, mais pourquoi? Mais non, je dois te faire le ménage. Non, laisse, je veux faire. Moi, je dis, non. Si vous, vous le faites, moi aussi, je dois le faire. Je ne me considère pas meilleur que vous. Je ne me considère pas que je suis plus ou quoi. Non. Je pense que c'est cette attitude que nous devons observer, même dans la maison du Seigneur. Devant, en venant dans la maison du Seigneur, nous devons avoir une attitude d'humilité, de respect pour le Seigneur. C'est dommage, des fois, on entre dans la maison du Seigneur avec une attitude qui n'est pas compatible, vraiment, à la maison du Seigneur. On commence à parler n'importe comment, on commence à discuter, à bavarder. Non, c'est la maison du Seigneur. Nous savons que, bon, c'est vrai, Dieu n'habite pas entre les quatre murs, c'est vrai. Mais la Bible dit, là, deux ou trois se rassemblent. Moi, je suis au milieu d'eux. Nous savons déjà que la présence du Seigneur est là. Alors, humilions-nous devant la présence du Seigneur. Par respect. Si vous allez assister à une réunion avec le président Macron, je ne pense pas que quand vous allez rentrer dans la salle, vous allez commencer à parler, à bavarder, à parler, à faire du bruit. Non. Vous allez garder une attitude de respect. Pourquoi? Parce que le président est là. Et de la maison du Seigneur, c'est pareil, frères et sœurs. Ayons cette attitude-là le dimanche, le mardi, à chaque fois que nous sommes dans la maison du Seigneur, avoir une attitude de respect, de révérence devant notre Seigneur. Oui, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Ça, c'est la première qualité que Jésus-Christ a tirée du comportement d'un enfant. La deuxième qualité que Jésus-Christ voulait faire voir à ses disciples concernant le petit enfant, c'était la dépendance. La dépendance. Vous savez, un petit enfant ne pense jamais qu'il peut faire la vie, qu'il peut faire face à la vie par lui-même. Jamais. Si nous demandons à notre jeune sœur qui est là, ah, tu vas rentrer toute seule à la maison. Il va dire non, je ne peux pas. Elle dépend de ses parents. Elle ne peut pas rentrer à la maison toute seule. Elle dépend de ses parents. Et un enfant de Dieu doit avoir cet esprit de dépendance de Dieu. Que tout seul, je ne peux rien faire. Tout seul, je ne connais rien. Tout seul, je ne peux pas. Oui, il est parfaitement satisfait d'être totalement dépendant de ses parents qui l'aiment et prennent soin de lui. notre jeune sœur est totalement satisfait de sa dépendance envers ses parents. Parce qu'il sait, maman ne partira pas sans elle. Elle sait que papa ne partira pas sans elle. Elle le sait. Elle sait que je dépends de mes parents. Même si je ne le vois pas, ils rentreront jamais à la maison sans moi. Et frères et sœurs, un enfant de Dieu, né de nouveau, doit vivre dans cet esprit de dépendance de Dieu. Malheureusement, certaines choses se font par nous-mêmes. Nous nous croyons capables, nous nous croyons compétents, nous nous croyons plus intelligents de faire des choses sans dépendre de Dieu. Sans dépendre de Dieu. Et je crois que c'est dans Jacques où le Seigneur a fait cette réflexion aux hommes d'affaires. Ne dites pas que demain nous irons dans telle ville, telle ville, telle ville, nous trafiquerons, nous gagnerons de l'argent, nous ferons ceci, nous ferons cela. Dites toujours que si Dieu le veut, si Dieu le permet, demain je ferai ceci, demain je ferai cela. Voilà une attitude de dépendance. Mais nous, dans notre vie de tous les jours, c'est très rare d'entendre que, bon, on se voit demain à 14h au métro Barbès. Non. Non. Il faut toujours dire que si Dieu le permet, parce que nous dépendons de Dieu. Qui te dit que tu pourras arriver demain? Qui te dit que tu pourras arriver même aujourd'hui là à 22h? On ne sait pas. Parce que notre vie est comme une vapeur qui apparaît et qui disparaît. L'enfant dépend totalement de ses parents, et les enfants de Dieu doivent accepter leur dépendance envers Dieu en toutes choses, car nous avons un Seigneur qui nous aime. Comme les parents, ils aiment leurs enfants, et l'enfant dépend de ses parents, parce qu'il sait que mes parents m'aiment, ils ne vont pas m'abandonner. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu n'abandonne jamais ses enfants, ceux qui se confient en lui, ceux qui dépendent de lui. On peut dire ça des lèvres, mais Dieu ne voit pas les apparences. Dieu voit l'intérieur, le cœur. Ils savent réellement si nous dépendons de lui ou pas. Et c'est cette qualité de dépendance que Jésus-Christ voulait enseigner, voulait faire voir à ses disciples. Et la troisième, nous allons nous arrêter là, c'est la confiance. La confiance, c'est cette qualité que Jésus-Christ a soulignée dans la vie de ce petit enfant qu'il avait placé devant eux. La confiance. Un enfant fait confiance à ses parents pour que ses besoins soient satisfaits. Totalement confiance à ses parents. Même si le papa est au chômage, maman est au chômage, l'enfant fait confiance à ses parents. Quand nous sommes enfants, nous ne pouvons pas acheter notre propre nourriture ou nos propres vêtements. Pourtant, nous ne doutons jamais que nous serons vêtus et nourris. Notre jeune sœur ne se doute jamais. Elle n'achète jamais ses propres vêtements. Elle n'achète jamais ses Kellogg's. Elle n'achète jamais son goûter. Mais il ne doute jamais. Elle n'a aucun doute que ça ne manquera pas. Il aura. Pourquoi? Parce qu'il fait confiance, une confiance totale à ses parents. À ses parents. Oui, frères et sœurs. Ayons confiance à notre Dieu. Faisons confiance à notre Dieu. Ne doutons de rien. Ne doutons de rien. Même si les moments sont durs, même si les moments sont difficiles, ne doutons de rien. Faisons confiance en ce Dieu. Il y a un frère qui a partagé avec moi, c'était au téléphone, je crois, avant-hier. Il a parlé du psaume 23. Il dit, mais frère, est-ce que tu as lu déjà le psaume 23? Moi, je dis oui. Il dit, mais lis un peu le premier verset de ce psaume. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, mais voilà. C'est lui qui avait une confiance totale à son Dieu. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et ce psaume dit, l'Éternel est mon berger. Si vous voyez le temps de conjugaison, c'est l'Éternel est mon berger au présent. Et quand il dit que je manquerai de rien, c'est au futur. Et quand vous lisez bien ce psaume, vous voyez que David qui a écrit ce psaume, il a traversé des moments difficiles, très difficiles. Mais comment il pourrait dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? Est-ce qu'effectivement David n'a rien manqué dans sa vie? Si, il a manqué beaucoup de choses. Quand il fouillait Saoul, quand il s'est caché, il a manqué beaucoup de choses. Mais pourquoi? Il avait une confiance totale à son Dieu. Et le frère a rajouté, dit, mais frère, il a dit, au lieu de dire l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça voudrait dire, même s'il n'y en a pas 8 heures, ce n'est pas grave. À 9 heures, j'ai confiance à ce Seigneur. À 10 heures, j'ai confiance à ce Seigneur. À 14 heures, le Seigneur agira. Donc, c'est une confiance totale. Je ne manquerai de rien. Donc, je pense que c'est cette attitude que nous devons avoir, nous, les enfants de Dieu. Une confiance totale et totale à notre Dieu, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Et nous savons que nous aurons la vie éternelle parce que nous avons confiance à ce qu'il a dit, le Seigneur notre Dieu. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Nous avons confiance en ces paroles, que le Seigneur reviendra nous prendre et nous avons la vie éternelle. C'est pour cela qu'un chrétien doit avoir l'assurance de son salut. Doit avoir l'assurance de son salut. Parce que à tous ceux qui croient en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et la Bible dit, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous croyons en lui. Et nous avons confiance que ça va se réaliser, que nous avons la vie éternelle. Nous devons avoir cette assurance-là. Un enfant de Dieu qui n'a pas cette assurance-là de son salut, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas de confiance en la parole de Dieu. Il n'a pas de confiance à ce que le Seigneur dit et il n'a même pas la confiance à son Seigneur. Un petit enfant a confiance à ses parents. Quoi qu'il arrive, même s'il y a le feu dans la maison, il sait que son père était un héros. Il fera tout pour le faire sortir de là. Même si son père donc, ne peut rien devant les autres, mais devant ce petit enfant, il sait que papa fera quelque chose. Frères et sœurs, voilà les quelques qualités que nous avons voulu voir ensemble ce soir. Face à cette question que les disciples ont posée à Jésus-Christ. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui devient comme un petit enfant. Ça ne voudrait pas dire qu'il faut voir un raisonnement d'un enfant. Non, ça ne voudrait pas dire qu'il faut devenir immature. Non, ce n'est pas ça. Mais ressortons les qualités spirituelles qu'on trouve dans la vie d'un petit enfant. Pour finir, frères et sœurs, le verset 3 dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Nous devons donc nous détourner de quelque chose pour devenir humbles comme des petits-enfants. Un petit-enfant sait qu'il ne peut pas survivre seul. Mais le monde d'aujourd'hui nous fait croire que tu peux vivre tout seul sans ton Dieu. Et cela n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre tout seul. Tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce au Seigneur. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Lorsque nous devenons comme un enfant, nous tombons devant Dieu et réalisons que nous dépendons complètement de lui et pour toutes choses. Et pour toutes choses. Le Seigneur est tellement plus grand que nous et nous avons besoin de lui en toutes choses comme un petit enfant a besoin de ses parents. Soumettons-nous humblement à sa parole et soyons aussi au servir des autres pour témoigner l'amour, notre amour envers notre Dieu et notre amour envers les autres comme le Seigneur a fait. Il a lavé les pieds de ses disciples. Il nous a montré l'exemple. Il est allé jusqu'à la croix. Il s'est humilié. Il a quitté les cieux, la gloire céleste. Il est venu vivre un homme de douleur ici-bas. Il s'est humilié. Et tout cela pour nous témoigner un amour sans exemple. Louons le Seigneur pour cela. Prions. Seigneur, merci. Parce que tu nous parles au jour le jour, Seigneur. Oui. Tu nous dis ce soir de devenir comme des petits enfants, de nous humilier, d'avoir confiance en toi, de dépendre à chaque fois de toi en toutes choses. Oui, malgré que le monde nous enseigne autre chose, mais nous, nous sommes à toi et nous voulons que marcher selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, notre Dieu, à être humbles. À pouvoir faire confiance en toi en toutes choses, afin que nous puissions marcher d'une manière digne des enfants de lumière, une vie qui va te glorifier, une vie qui sera pour ta seule et unique gloire. Car tu reviens bientôt, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen.